Rural, terre durable, l'engagement écologique local avec Samuel Pécaud de Fréquence Terre.
Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année à tous. Alors nous étions la semaine dernière avec Philippe Libourreau, le directeur du réseau français de la construction en paille. Nous sommes à nouveau avec vous aujourd'hui. Philippe Libourreau, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez présenté la semaine passée les performances écologiques, économiques et thermiques de ce mode de construction. Je poursuis avec une question de base, j'ai envie de dire. C'est facile de trouver de nos jours des petites bottes pour construire en paille à l'heure du Big Baller?
Ah ben ça se trouve, oui, ça se trouve toujours aussi facilement. Enfin, je dirais on les trouve pas forcément sur le marché directement, mais il suffit de demander aux agriculteurs. Hein. Il y a toujours dans chaque village un agriculteur qui a gardé une petite botteuse, enfin une botteuse qui fait des petites bottes, parce que en fait, il y a toujours une demande, par exemple pour des petits élevages, des chevaux, des élevages de lapins, etc., etc. On a toujours besoin de petites bottes de paille, hein, qui sont facilement manipulables, et voilà, c'est toujours fabriqué, et lorsqu'on demande à des agriculteurs de les fabriquer, selon notre cahier des charges, ils n'ont pas de problème à le faire.
Alors, ce qui fait l'attrait aussi pour la maison paille, c'est ce mode de construction collaboratif où on fait appel aux amis, à la famille. On l'a vu d'ailleurs récemment à Notre-Dame-des-Landes, qu'elles peuvent être construites rapidement si on a de la main-d'œuvre. C'est ça aussi l'intérêt de la construction en paille?
Alors, c'est effectivement une des pistes, hein, c'est une des voies. La construction, je dirais, de la maison de paille se fait de deux façons. Aujourd'hui, il y a une très très grosse demande de maisons clés en main, et puis il y a également une demande de personnes qui veulent en partie autoconstruire leur maison, encadrée bien sûr par un professionnel. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut mettre en place des chantiers collaboratifs. Donc, et puis pour des petites structures, je dirais, associatives, ou ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Champs, qui a justement fait un petit peu de publicité à la construction paille, on peut effectivement très très rapidement construire un bâtiment. D'ailleurs, il y a eu des choses de pensées pour faire des abris pour l'hiver, je dirais, pour les personnes qui sont sans domicile fixe. Il y a eu des projets qui ont été montés par des architectes avec des petites structures très très rapides à monter. Donc ça, voilà, ça offre certains intérêts, effectivement.
Pour terminer, certains auditeurs peuvent être intéressés par la maison en paille, mais avoir malgré tout quelques craintes, que ça soit des risques d'incendie, de la présence de rongeurs ou d'insectes. Est-ce que vous pouvez les rassurer de ce côté-là?
Ben, en termes d'incendie, on a fait tous les tests possibles. Donc on a un classement au feu. Je vais pas vous le donner, parce qu'il est un peu compliqué celui-là, il y a plein de chiffres et plein de lettres. Ça correspond simplement à ce qu'on appelait l'ancien classement M1, c'est-à-dire matériaux non inflammables. Après, on a fait d'autres tests, si vous voulez, parce que des tests plus poussés sont faits sur certains types de bâtiments, suivant la catégorie dans lesquelles on va les classer. Par exemple, pour des écoles à étages, on fait des tests très poussés. Donc, par exemple, pour valider l'école d'Issy-les-Moulineaux, le groupe scolaire d'Issy-les-Moulineaux, on a dû faire un test avec, une maquette à l'échelle, hein, qui a permis effectivement de valider ce matériau pour la construction d'écoles à étage.
Et au niveau des insectes ou rongeurs?
Alors insectes et rongeurs, je dirais qu'un rongeur, de toute façon, à partir du moment où il trouve un trou pour rentrer, il va rentrer, que ça soit dans de la paille ou que ça soit autre chose. La seule différence, c'est que dans de la paille, c'est très difficile parce que les bottes sont très compressées, alors que par exemple dans du polystyrène, là, il se régale. D'ailleurs, quand on demandait aux gens qui ont des maisons en polystyrène à la campagne, ils sont... je sais pas, d'ailleurs, on sait même pas s'il reste du polystyrène à la fin, au bout de quelques années, tellement ils ont fait des galeries à l'intérieur. Donc, il suffit effectivement d'avoir des enduits qui sont bien fermés, des parements qui sont bien fermés, avec des grilles anti-rongeurs, comme dans n'importe quel autre type de construction. Et puis, en ce qui concerne les insectes, il n'y a pas d'insectes prédateurs de la paille. On aurait pu croire que le thermique, effectivement, pouvait en être un, puisque la paille est aussi composée de cellulose, hein, comme le bois, mais pas seulement de cellulose, justement. Ce qui fait qu'on a fait faire des tests au SCBA à Bordeaux, et on s'est aperçu que si on affamait des termites et qu'ensuite on les mettait dans la paille, ben ils commençaient à en manger, mais ils ne pouvaient pas survivre.
Merci Philippe Labourreau. Je rappelle que vous dirigez le réseau français de la construction en paille. Merci donc de nous avoir présenté ce mode de construction qui date en France, je le rappelle, de 1921 et qui semble avoir beaucoup d'avenir.
Retrouvez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com à la rubrique Terre rurale, Terre durable.